Donc, le message d'aujourd'hui, c'est un peu par rapport à la vision de l'Église. Et il s'intitule « Les Églises interethniques, nouvel instrument de Dieu ». Je vous invite à prier avec moi. Oui, Seigneur, nous voulons te demander de nous guider maintenant. Nous voulons te demander de nous remplir de toi, de nous donner une oreille attentive, un esprit ouvert et beaucoup d'amour les uns pour les autres. Nous te prions toutes ces choses parce qu'on sait que la relation avec toi, elle est verticale, elle est entre toi et nous et elle est horizontale. C'est-à-dire nous, avec nos frères et sœurs. Alors, donne-nous cet état d'esprit par le Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est ça. Vous savez, dans notre cours sur la prière d'écoute hier, avec le district, on a vu un principe qui s'applique à l'évangélisation. Et on voit, c'est un principe qui montre comment témoigner de Christ autour de nous, c'est relié à la prière. Le principe, c'est qu'il ne s'agit pas juste de témoigner, mais il faut savoir à qui témoigner. Il ne s'agit pas juste simplement d'évangéliser, mais de savoir aussi qui évangéliser. Je me souviens d'un aumônier militaire que je connais, on lui avait posé la question, « Comment tu t'y prends pour témoigner de Jésus-Christ aux soldats? » Et lui, il avait répondu, « Bien, j'ai appris avec le temps qu'il faut que je discerne quelle personne est en train d'être préparée par le Saint-Esprit pour parler de l'Évangile. Et puis, c'est cette personne-là avec qui je vais parler de l'Évangile. C'est vers cette personne-là que je vais aller. » On voit ce principe aussi dans la Bible, avec les premiers évangélistes, dans le livre des Actes. Voilà le principe, il ne s'agit pas simplement d'évangéliser, mais de savoir aussi qui évangéliser. Et ça, c'est la prière, ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. Et comme je disais, les premiers évangélistes, regardez ce qui leur arrive. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie, qui sont d'autres provinces de la Turquie actuelle. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et finalement, Paul va aller évangéliser, non pas en Asie, non pas en Mysie, non pas en Phrygie, non pas en Bithynie, mais là où la vision de Dieu lui a dit d'aller, c'est-à-dire en Macédoine, qu'il fallait traverser une mer pour se rendre là, et c'est là où il est allé. Donc, le Saint-Esprit nous guide dans notre mission, vers qui on doit aller. Et c'est sûr que parfois, nos choix dans ce domaine, par exemple le domaine de l'évangélisation ou le domaine d'église, sont liés à notre culture, sont liés à nos préférences personnelles. C'est normal. C'est normal pour moi de vouloir voir les gens de mon pays être atteint avec l'Évangile et se convertir. Et dans le cas de l'apôtre Paul, dont il est question dans cette histoire que je viens de lire, bien lui, son ethnicité, c'était, il était un juif, un vrai de vrai. Juif, né de juif, c'était pas un converti, mais il était juif de souche profonde. Et lui, quand il est devenu chrétien, il croyait que toute la nation juive allait avoir la foi et se tourner vers le Messie qui était finalement venu, qui est le Messie tout d'abord des Juifs. En fait, on sait que Jésus, c'est le Messie, le Sauveur de tous les hommes, mais des Juifs d'abord. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Juifs qui sont venus à la foi au début, mais au final, ce n'était qu'une petite minorité. Quelle grande déception pour Paul. Il espérait que toute la nation juive se tournerait vers Christ. Ce n'était qu'une petite minorité. Et dans une section de la lettre aux Romains, qui est célèbre, Romains 9, 10 et 11, trois chapitres, c'est un peu de ça que je veux parler ce matin, Romains 9, 10 et 11, Paul commence en exprimant sa tristesse face à ce qui vient de se passer avec son peuple. Donc, un intérêt grand au début, pendant un certain temps, puis qui a beaucoup diminué et qui a presque arrêté. Et quand Paul écrit ceci, « Je dis la vérité en Jésus-Christ. » Voilà, je crois que je l'ai ici. Oui, voilà. Les quatre premiers versets du chapitre 9. « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes compatriotes, les Israélites. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de se fermer à l'Évangile. C'est une réaction qui nous paraît normale et Paul, en fait, est doublement triste parce que non seulement la majorité des Juifs de son temps ont décidé de ne pas recevoir Christ comme lui, mais en plus, Dieu lui a donné un mandat d'évangéliser les gens à l'extérieur de son ethnie. Hein? Dieu lui a dit, « Toi, tu vas être l'apôtre envers les non-juifs, qu'on appelle aussi les païens, qu'on appelle aussi les nations. » Et sa mission en dehors de sa propre ethnie marchait vraiment bien. Il y avait de plus en plus de gens qui rentraient dans le peuple de Dieu, qui venaient des autres nationalités. Et il sentait que sa propre nation était laissé pour compte par Dieu. Mais c'était seulement une apparence. En réfléchissant, en priant, en méditant, Paul se rend compte que sa nation, à lui, la nation juive, n'était pas laissée pour compte dans le cœur de Dieu. Il comprend que dans son amour immense pour les humains, et pour les Juifs, d'une manière toute spéciale, Dieu déploie des étapes dans son projet d'évangélisation, dans son plan du salut. Il y a des étapes stratégiques, une après l'autre, dans le plan de Dieu pour sauver le plus d'hommes et de femmes possible, y compris des Juifs, parce que Dieu a un plan spécial pour les Juifs et en fait pour chaque peuple. Donc, Paul était triste parce qu'il pensait que Dieu a abandonné les Juifs. Il ne les aime plus ou il pense à d'autres choses, mais il a réalisé en scrutant les Écritures et en priant que non, ce n'est pas ça. C'est une stratégie de Dieu. Paul se rend compte que ce nouveau focus sur les non-Juifs du monde à laquelle Paul est comme nommé, il est affecté à cette nouvelle évangélisation-là, cette nouvelle étape. Elle porte de plus en plus de fruits et c'est une étape stratégique puis dans un sens temporaire du plan de Dieu qui va permettre le salut de plus de Juifs maintenant. Et Paul le dit, puis on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais à la fin des temps, une entrée en grand nombre, en très grand nombre, de Juifs dans le peuple de Jésus-Christ. C'est quelque chose que Paul annonce. Je pense que c'est une genre de révélation qu'il a reçue dans Romains 11, il le dit. Et donc, voilà pourquoi Paul commence cette section-là de Romains dans la tristesse, à cause de ce que je vous ai dit, et la termine dans une explosion de joie. Et ça, c'est fort intéressant que on peut être découragé dans notre vie chrétienne, mais quand on revient à la parole et quand on se met à l'écoute du Saint-Esprit, normalement, on passe de la tristesse à la joie. Quand on commence à comme reconnecter avec la vision de Dieu des choses, qui est toujours pleine d'amour, de miséricorde, de créativité. Hein, ce verset où la Bible dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce n'est pas ce qu'on voit souvent, mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ce qui se passe ici avec Paul. Il termine cette section sur les Juifs en disant « Waouh, quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, que ses voies sont impénétrables. » Le plan d'évangélisation de Dieu est extraordinaire, même s'il peut nous paraître décevant, déficient, problématique, décourageant. Il ne faut pas s'arrêter à ça. Et moi, j'aimerais vous suggérer quelque chose, peut-être d'un peu nouveau, je ne sais pas. Mais je pense qu'en regardant notre Québec post-chrétien du 21e siècle, on peut être triste face à la difficulté de la tâche de l'évangélisation. Parce que le Québec, il est post-moderne, il est, on va dire, post-chrétien, et il est un peu anti-chrétien, puis en même temps, peut-être est en train de devenir païen. C'est-à-dire, anti-chrétien, ce serait un peu comme on est contre la religion. Puis il y a beaucoup ça au Québec d'aujourd'hui. Mais il y a aussi, là, on commence à être ouvert à toutes les religions, les spiritualités, les possibilités d'avoir un avantage dans le monde spirituel. Et ça, j'appellerais ça plus l'ancien paganisme dont nous venons tous. Et c'est difficile. Mais il ne faut pas rester triste, bien qu'on est triste des fois. Non, nous devons regarder les choses en considérant la perspective divine et Romains 9 à 11, qui nous apprend peut-être une nouvelle façon de regarder. Et je vous lis la diapo ici. Au Québec du 21e siècle, Dieu déploie aussi des étapes successives pour atteindre et sauver le plus grand nombre. Ces étapes incluent des préparations. Non, pardon. Ces étapes incluent des changements dans les populations qui sont ciblées avec l'Évangile, selon la préparation de l'Esprit. Comme les Juifs du temps de Paul, les groupes au Québec qui se sont endurcis pour un temps peuvent être mis en attente, mais ils ne sont pas rejetés. Les bras de Dieu restent toujours grand ouverts et Dieu prépare pour l'avenir l'accueil d'un très grand nombre. Alors, réfléchissons à ça. Parfois, Dieu nous dit, changez votre focus pour un temps, parce que dans tel groupe, il y a beaucoup de gens qui sont ouverts à l'Évangile. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas les autres, comme il n'oublie toujours pas les Juifs. Voilà ce que Paul avait découvert alors qu'il essayait de comprendre le plan de Dieu pour son peuple. Hein? Je vous rappelle que Paul a vu que l'évangélisation avait commencé avec les Juifs. Il y avait beaucoup de succès, comme j'ai dit. Puis la proclamation s'est ouverte à tous les peuples. C'était toujours le plan. Et il y a eu ce phénomène imprévu que les non-juifs entraient dans l'Église en très grand nombre. Et le nombre de non-juifs a dépassé les juifs parmi ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Et déjà ça, c'était une surprise pour les apôtres. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et Paul l'explique. Quand les non-juifs commençaient à devenir plus nombreux, il y a beaucoup de juifs qui devenaient moins intéressés à l'Évangile à cause de cette autre population qui rentrait. La présence des autres était pour eux un obstacle. Paul était triste au début, mais il découvre que derrière cela, il y a une astuce de Dieu, une stratégie. En fait, Paul affirme que ces Juifs qui ont entendu l'Évangile, ils l'ont même compris, et Jésus frappe à la porte de leur cœur, mais s'ils ne sont pas encore rentrés, c'est qu'ils ne sont pas prêts encore à obéir. Il y a un blocage qui les empêche de croire. Mais Paul entrevoit que quelques-uns de ces Juifs récalcitrants, alors qu'ils voient les non-Juifs s'approcher et même s'approprier leur Dieu, leur Bible, leur foi, devenir un peuple d'amour qu'eux étaient supposés être, ça va susciter leur jalousie. C'est le mot que Paul utilise dans Romains 10, 18 et 19. Ça va susciter leur jalousie. Et cette jalousie va les faire réfléchir. Cette jalousie va les faire s'approcher et peut même les amener à la conversion. Alors, Paul est triste au départ, mais il finit par voir mon ministère envers les non-juifs et le développement des églises païennes. Finalement, je vais le faire avec d'autant plus d'enthousiasme, pas comme un second best, mais comme vraiment l'étape stratégique de Dieu pour le moment, pour le salut des non-juifs, mais aussi pour le salut des juifs. Il dit ceci, Paul, dans le chapitre 11, en parlant des Juifs encore une fois, « Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? » Certainement pas. Dans le sens, tomber dans l'enfer, on pourrait le dire comme ça, certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-Juifs ont eu accès au salut, afin de provoquer leur jalousie. C'est quand même assez frappant et difficile à comprendre, mais c'est là. C'est pour provoquer leur jalousie. Je vous le dis, à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère, afin que, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. Intéressant, quand même. Il parle donc, ça c'est pour l'immédiat, donc ça va attirer des Juifs vers ce peuple nouveau qui leur pose problème. Mais aussi, dans le plan de Dieu par rapport à l'avenir, donc à la fin des temps, Paul dit ceci en parlant des Juifs, « Si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance, la richesse des non-Juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? » Alors, c'est un peu complexe tout ça, mais ça veut dire, si Dieu, dans sa miséricorde, si un groupe est dur à atteindre pendant une période, Dieu va envoyer son message de salut à d'autres peuples pour le salut du plus grand nombre. Mais Dieu prépare à travers cela la possibilité de salut d'une grande masse de personnes à la fin des temps, et des Juifs en particulier. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient à la fin des temps pour le peuple juif. Et Paul base ça sur le genre de Dieu que Dieu est. Il veut sauver le plus d'hommes possible. Et viendra un temps où les hommes seront désespérés et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? J'aimerais vous suggérer une idée qui s'applique à nous aujourd'hui. Et si c'était un peu la même chose dans le Québec d'aujourd'hui? Et si Dieu avait une stratégie similaire, par étapes, dans l'évangélisation au Québec, pour sauver le plus grand nombre de personnes, et même le plus grand nombre de Québécois d'origine? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui nous rend triste, c'est que la population du Québec, la plus difficile à atteindre depuis plusieurs années, c'est les Québécois d'origine, les Québécois de longue date. On dit encore les Québécois de souche. On parle de entre 70 et 80 % des gens qui habitent ici qui sont les plus difficiles à atteindre. Quelle tristesse pour nous! Je pense que vous le vivez, vous le remarquez. Et on se pose la question, que faire? On est triste comme Paul l'était. C'est peut-être là le rapprochement que je fais ici. Nous sommes tristes comme Paul l'était par rapport à son peuple. Mais en fait, un petit peu comme les Juifs, on peut dire, jusqu'à un certain point, les Québécois, ils ont entendu. Jusqu'à un certain point, ils ont compris. Jésus frappe déjà à leur porte. Mais il y a des blocages. Il y a des blocages qui les empêchent de croire et d'obéir, comme ce fut le cas des Juifs. Notre Dieu ne s'arrête pas à cette difficulté, que ce soit au Québec ou dans bien d'autres pays qu'on appelle chrétiens, comme la France, comme l'Allemagne. Je lisais un article par rapport à l'Allemagne où les églises se vident. Et il y a un commerce de cloches d'église, où les paroisses catholiques, luthériennes et autres prennent leurs cloches qu'ils n'utilisent plus, et les exportent dans des pays qui les veulent. Et ils disent, c'est particulièrement où? En Afrique et en Inde. Quand même intéressant que l'Afrique continue à être vraiment un endroit où, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, je ne dis pas que, bien, les gens, il y a beaucoup de gens ouverts à recevoir Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Apparemment, en Inde aussi, malgré qu'on a vu l'évangélisation de l'Inde est loin, loin d'être terminée, elle a à peine commencé dans plusieurs régions. Et le Québec est dans ce même drame que dans les pays européens. Mais Dieu fait une œuvre magnifique dans le monde entier, amenant des âmes à Christ dans toutes sortes de régions nouvelles et de peuples nouveaux. Ce qui est merveilleux et créatif, c'est qu'en plus, maintenant, avec l'immigration, eh bien, Dieu amène ces nouveaux chrétiens d'autres peuples ici au Québec. Je pense qu'il faut le dire. Et il faut se dire, notre Dieu qui est souverain doit avoir une stratégie là-dedans. Donc, c'est là où j'aimerais vous proposer que les églises interculturelles, interethniques comme l'Oasis, qui poussent un peu partout dans les grandes villes occidentales et au Québec même, sont le fruit de cette nouvelle étape de l'évangélisation que Dieu a prévue. Des églises comme l'Oasis qui unissent plusieurs nations avec des Québécois d'origine pour adorer ensemble, pour évangéliser ensemble, pour former des disciples ensemble, pour éduquer les enfants ensemble, pour servir Christ ensemble comme un seul peuple nouveau. Reflète un peu ce mystère du plan de Dieu, qui n'est pas un plan humain, et reflète aussi sa beauté, comme on a vu dans l'Apocalypse, et ça, c'est une vision que Dieu a donnée à un Juif, comme Paul, mais celui-ci s'appelait Jean, et cette vision, la vision de peut-être la fin des temps, le royaume éternel, c'est ce que Jean a vu. Il dit, après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne peut compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Amen. Donc, vous voyez que le salut tellement gracieux de Dieu fait que des gens très différents viennent à lui et deviennent une nouvelle famille. J'aimerais vous suggérer, mes frères et sœurs, et si Dieu voulait causer une espèce de jalousie parmi les Québécois de toutes sortes autour de nous, une jalousie par ce peuple nouveau que nous formons dans l'Oasis et dans les églises comme l'Oasis, une jalousie qui amènerait les gens à venir voir ce qui se passe parmi nous et si possible être sauvés à leur tour. Dieu veut que notre vie communautaire ici à l'Oasis fasse poser des questions aux gens autour de nous, y compris à nos enfants. Des questions comme, comment ça se fait que toi, qui es une immigrante nouvellement arrivée au Canada, tu reçois autant d'amour et d'accueil dans la famille de Dieu? Comment ça se fait? Comment ça se fait que toi, qui es Québécois et qui as déjà une famille ici, tu aimes et peut-être tu préfères passer du temps avec ta famille de foi qui inclut des étrangers? C'est quoi cette affaire-là? Comment ça se fait que toi, qui es Québécois, comment ça se fait que l'unité et le bonheur qu'on essaye de créer dans la société québécoise à laquelle nous aspirons et que nos gouvernements travaillent si fort à accomplir, nous la voyons se réaliser dans des groupes comme l'Oasis, qu'on considère comme des sectes méprisables et peut-être même dangereuses. Peut-être qu'on a une fausse idée de qui ils sont. Si on est dans la bonne voie par rapport à ça, et si on est consacré, ces questions vont venir. Ce genre de questions, ce genre de, on peut dire jalousie, mais je ne sais pas, c'est un sentiment qui va être négatif au départ. Ça va causer des conflits autour de nous, dans nos familles. Mais souvent, c'est comme ça que Dieu se met à l'œuvre pour en sauver quelques-uns. Et au début, ça va être au compte-gouttes, hein? On ne se le cachera pas. Mais pour Dieu, même une personne, ça vaut la peine. Il fait un party pour chaque personne qui vient à Christ. Et j'ose croire que Dieu veut préparer d'autres grandes vagues de renaissance spirituelle au Québec dans l'avenir. Parce que rien ne lui est impossible. Donc, je vais conclure. En fait, pourquoi je vous parle de ça ce matin? On arrive à un moment important dans la vie de l'Oasis où on doit discerner pour l'avenir et nous engager pour bâtir l'avenir de notre petite église. Et depuis 12 ans, le Seigneur nous a conduits à travailler comme église d'accueil et église interculturelle. Mais maintenant, c'est le moment de décider, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on recule? Ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on avance? Est-ce que la multiethnicité, c'était comme une expérimentation? Ou est-ce que finalement, c'est un mandat à plus long terme? Et c'est dans ce discernement que les anciens, nous travaillons cet automne, que nous prions avec vous. Et c'est pour ça que je veux en parler ce matin. Et comme vous le ressentez, moi, je sens que ce n'est pas fini. Je sens qu'on doit aller plus profond, plus intentionnel. Je nous invite à célébrer notre réalité multiple. Je nous invite à approprier ce ministère avec fierté, à investir pour aller plus loin dans cet appel, pour devenir un peu comme Paul qui disait, en tant qu'apôtre des non-juifs, j'ai pas honte, mais je suis fier de ce ministère-là, malgré qu'il est inconfortable pour moi, parce que moi, ce qui me brûle dans mon cœur, bien souvent, c'est le salut de ma patrie. Mais Dieu m'a donné une tâche stratégique et je commence à sentir quelle est la stratégie de Dieu là-dedans. Je suis fier de mon rôle et je vais continuer afin d'en sauver quelques-uns. Nous, les membres de l'Oasis, soyons fiers et zélés dans notre ministère interethnique en accueillant des individus parmi les nouveaux Québécois, nous sommes plusieurs, et parmi les Québécois anciens ou anciens Québécois ou Québécois de souche, nous sommes plusieurs, afin que chaque année, nous en sauvions d'autres. Enfin, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Quelle joie! Je vous rappelle mon titre, « Les églises interethniques comme l'Oasis » sont un nouvel instrument de Dieu. Levons-nous et bâtissons. Attendons-nous à de grandes choses de la part de notre Dieu. Amen. Je vous invite à prier et je vous invite aussi à prier à la maison, à réfléchir à tout ça. Et on pourra en discuter aussi. Prions. Oui, Seigneur, on veut te dire merci parce que tu nous utilises. Je sais qu'on se sent petit à l'Oasis et humble dans nos actions, mais il y a quand même beaucoup de gens à l'extérieur de notre milieu immédiat qui ont entendu parler de nous et c'est sûr, ils ne connaissent pas tous les défauts que nous avons, mais ce n'est pas rare qu'ils disent « C'est assez merveilleux, votre concept d'église, c'est assez merveilleux les choses que vous essayez. » Et Père, ça nous pousse à prier. Où est-ce que tu veux nous amener dans notre prochaine étape? Jésus, on a entendu la semaine dernière, non, il y a deux semaines, il y a deux semaines, on a entendu que nous sommes dans une barque, puis toi, Jésus, tu es avec nous, et tu nous dis, allons de l'autre bord. Mais c'est quoi l'autre bord? Nous avons vraiment besoin que tu nous guides. Seigneur, moi, je sens que j'ai entendu quelque chose et je le partage ce matin. Mais si ça vient de toi, d'autres l'entendront et nous pourrons confirmer cela pour aller dans la prochaine étape et avoir une vision plus précise, plus claire en tant que communauté où tous pourront jouer un rôle. Alors Seigneur, je te demande vraiment de nous conduire, de nous guider, de nous parler. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.